On est le 14 avril sur Europe 1. L'actualité, Lénaïque Monnier, Bernard Poiret.
Lénaïque, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, l'acte 22 des Gilets jaunes et une affluence en légère hausse.
31 000 manifestants, 6 000 rien qu'à Toulouse, c'est là que se tenait le gros de la mobilisation du monde et une situation tendue. Reportage dans un instant. Un dernier samedi en jaune, comme un coup de pression sur le président, Emmanuel Macron devrait s'exprimer en tout début de semaine, sans doute à la télévision. Et puis, le marathon de Paris va partir d'ici quelques instants. Yasmina Katou sera avec nous en direct de la ligne de départ.
Europe 1. Il y avait encore pas mal de monde hier dans les rues des grandes villes de France pour l'acte 22 des Gilets jaunes.
31 000 manifestants dans toute la France, 5 000 à Paris d'après le ministère de l'Intérieur et 80 000 selon le décompte de nombreux jaunes. C'est un tout petit peu plus que la semaine dernière. Le gros de la mobilisation avait lieu à Toulouse. Certaines figures du mouvement, comme Maxime Nicole et Éric Drouet, étaient présents. On a dénombré 6 000 personnes qui ont manifesté et un climat du coup assez tendu, Benjamin Péter.
Il aura suffi d'un quart d'heure à peine pour entendre les premières lacrymogènes. Pris en tenaille par les CRS, les manifestants se retrouvent au milieu des gaz. Parmi eux, Maxime Nicole, il regrette cette stratégie du gouvernement.
Moi, je suis déçu de cette réponse-là. Quand les gens manifestent, si on veut que ça se passe bien, on les écoute. On ne fait pas semblant de faire un débat sous fond de fonds publics. Et à chaque fois, comment on fait ? Ben, on asse les gens et puis voilà, ça fait monter la colère chez certains, une minorité. Alors qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont là juste pour manifester et pour revendiquer des choses légitimes.
Plusieurs groupes vont réussir à se réorganiser. Jusqu'à 6000 personnes vont alors déferler sur le centre-ville. Refoulées de part et d'autre des boulevards, le cortège va tourner en rond plus de 3 heures, provoquant quelques dégâts. Pour Marie-Claire, ça ne fait que renforcer leur détermination.
Ils ne vont pas nous arrêter comme ça, quoi. Puis ce week-end, c'est spécial, puisqu'il y en a beaucoup qui sont venus de Paris, de Bordeaux. Donc eux, ils ne sont pas venus pour rien non plus. Et comme il fait beau, et bien voilà, et je pense qu'on va leur montrer que même avec la répression, on reste sur place.
Alors au final, 14 blessés légers sont à déplorer et 37 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, notamment pour avoir dissimulé leur visage, comme le prévoit la nouvelle loi anti-casseurs. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Loi anti-casseurs contre laquelle on a défilé hier à Paris, une marche sans incident pour la liberté de manifester à l'appel de plusieurs associations comme Amnesty, SOS Racisme ou encore Attaque.
Les opposants à Emmanuel Macron ont donc remis la pression sur le chef de l'État qui devrait normalement présenter ses annonces très prochainement pour sortir de la crise.
Selon nos informations, le président doit s'exprimer demain soir vraisemblablement dans une allocution à la télévision après le grand débat, puis les restitutions du gouvernement toute la semaine dernière. Il y a beaucoup d'attente. Même les ministres sont impatients de découvrir ce qu'il ressortira de cette feuille de route. Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Maintenant, ça va aller vite, confie un membre du gouvernement. Les ministres sont à l'image de la majorité et d'une partie des Français. Ils attendent la parole présidentielle. On est dans une période d'incertitude. La fébrilité est générale, souffle une ministre de premier plan. Depuis plusieurs jours néanmoins, l'activité est dense à l'Élysée. Emmanuel Macron consulte son tout premier cercle, les Bayrou, Ferrand, Grandjean. Il envoie beaucoup de SMS. Il travaille aussi les échanges qu'il a eus lors des conseils des ministres ces dernières semaines. Rares sont ceux qui savent réellement quelles sont les annonces à venir. On parle de réindexation des petites retraites, de mieux entendre les besoins des territoires, d'une fiscalité plus juste, d'un tournant écologique. Il y aura des annonces concrètes immédiates et d'autres plus lointaines, croit savoir une ministre. Ça ressemblera à une nouvelle feuille de route, confie l'un de ses collègues du gouvernement issu de la droite. Emmanuel Macron, condamné à surprendre pour calmer la colère des Gilets jaunes et pour redonner un projet au pays après plusieurs mois de débats. Mais un membre du gouvernement tempère. Attention, ça ne va pas non plus être le grand soir.
Et il y en a une qui n'attend, je cite absolument rien de ces annonces du chef de l'État, c'est Marine Le Pen. Elle le dit ce matin dans les colonnes du Parisien. Tout a été précisément fait pour qu'aucune revendication ne puisse émerger. Voilà ce qu'affirme la chef de file du Rassemblement National.
Hier, dans les rues de la capitale, il y avait certes des gilets jaunes, il y avait aussi d'autres marcheurs qui voulaient parler du cancer.
La Cancer Pride, ou comment évoquer la maladie sans en avoir honte après une marche, un village a ouvert pour que des malades rencontrent des personnes qui ont vaincu la maladie, car il faut libérer la parole. Reportage Marion Jorte.
Le cancer est seul, nous sommes des millions, le cancer n'est pas tabou. Voici ce que l'on peut lire sur les pancartes de la Cancer Pride. Anna Maria, 68 ans, elle lutte contre un cancer depuis 2015. Elle est venue chercher du soutien, mais elle l'affirme, elle n'a pas honte d'être malade.
Ni honte, ni peur. C'est vrai que le cancer tue encore, mais l'état d'esprit est très important. Les soutiens, c'est très important.
Vanessa est en rémission et bénévole à l'association BRCA France. Pour elle, il faut parler librement de la maladie et faire de la pédagogie.
Est-ce que les femmes sont vraiment bien informées? Est-ce que les femmes sont prêtes à parler de leur cancer du vagin ou de la vulve? Je suis là pour ça et j'ai aucun problème avec ça. Mes enfants sont au courant, mes amis sont au courant, j'en parle tout à fait librement, au contraire.
La Cancer Pride, c'est aussi des stands autour de l'après-cancer. S'habiller, se maquiller, faire du sport, éviter une perte d'estime de soi après les traitements, cela fait aussi partie de la guérison, explique Aude, bénévole à Unicancer.
C'est quelque chose dont les gens qui sont atteints n'osent pas parler. Retrouver le goût de s'habiller, retrouver le goût de séduire, se réapproprier son corps est extrêmement important.
Bénévole comme patient insiste, il faut dédramatiser le cancer. Aujourd'hui, 6 malades sur 10 s'en sortent après un traitement.
Et quelques chiffres. En 2018, 382 000 nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en France. 157 000 personnes en sont décédées.
La suite de ce journal dans un instant. Je vous pose une question idiote. Game of Thrones, vous connaissez? Bien sûr, vous connaissez, puisque c'est une série au succès planétaire. Mais hélas, trois fois hélas, elle s'arrête bientôt.
Europe 1, il est 8h06. Vos infos reprennent avec Lénaïque Monnier et Bernard Poiret.
Lénaïque, des millions de fans dans le monde entier seront vissés à leur fauteuil ce soir, car la dernière saison de Game of Thrones arrive sur le petit écran.
C'est la huitième déjà et 186 pays vont retransmettre la série simultanément. C'est OSC qui la diffuse en France. Mathieu Charrier nous explique pourquoi cette saison est absolument hors du commun.
15 millions de dollars, c'est le budget pour chaque épisode de cette huitième saison. C'est un record dans l'histoire des séries, trois fois plus que le budget moyen d'un film français. Mais il faut dire que c'est rentable, puisque chaque saison rapporterait 1 milliard d'euros à HBO, le producteur. La série est même citée comme référence par Barack Obama et Donald Trump, qui en reprend des phrases clés pour illustrer ses tweets politiques. C'est dire si elle touche un public large et varié. Alors pourquoi cette histoire de grande famille qui se déchire pour accéder au trône de fer alors qu'un hiver tueur menace? Pourquoi cette histoire nous passionne-t-elle? Marianne Chaillant est philosophe et auteure de Game of Thrones, une métaphysique des meurtres.
Il y a des questions d'éthique appliquées, extrêmement modernes, qui font des jeux d'écho avec l'actualité la plus contemporaine. L'euthanasie, la prostitution, mais aussi des questions métaphysiques. Dans Game of Thrones, on parle de la foi, on parle de l'existence de l'âme, bref. Métaphysique, morale, politique, Game of Thrones est une série vraiment très très riche.
Les épisodes de cette ultime saison sont tellement attendus que la production a tout mis en œuvre pour garder le secret. Plusieurs fins ont été tournées, les acteurs poursuivis par les paparazzi ont été envoyés sur de faux lieux de tournage pour brouiller les pistes. Quant au vrai tournage, il était protégé par des dispositifs anti-drones.
Et pour suivre les dernières aventures de Jon Snow et de tous ses petits camarades, il faut attendre jusqu'à 3h du matin la nuit prochaine. Diffusion sur OCS.
À 8h10, c'est votre journal des sports avec Lénaïque Monnier.
Et à 8h10, 60 000 coureurs sont au départ du 43e marathon de Paris. Là, tout de suite.
Les pros sont en train de partir. Les amateurs, eux, ont encore quelques minutes devant eux. Yasmina Katou, vous suivez pour nous le marathon aujourd'hui et vous avez pu rencontrer quelques courageux.
Oui, oui, les naïgs devant les petits chapiteaux, ils déposent leurs affaires, les coureurs enfilent gants et bonnets. Ici, il fait à peine 8 degrés, Julien sautille pour se réchauffer. C'est son tout premier marathon, ce coureur du dimanche s'est entraîné 3 fois par semaine pendant 1 an. Il espère terminer en 3h30, il se sent prêt.
Ça va le faire. Il paraît que la fin est très dure. En fait, il faut essayer d'en garder sous la semelle pendant des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir finir. Par rapport aux tests que j'ai pu faire tout au long de mon entraînement, si je me cale à 12 à l'heure, normalement, ça fait jusqu'à la fin.
Et tous ne sont pas novices. Thomas en est à son 3e marathon de Paris. Et pour lui, son entraînement a été plus intensif.
Moi, je suis monté à 85 km sur ma plus grosse semaine, en fait. Et puis après, vous avez les sorties longues où on va travailler le rythme de la course. Et puis on va travailler ça sur de la longueur pour se préparer à l'échéance.
Et alors c'était quoi votre repas hier soir?
Mon repas hier, des pâtes, forcément. Voilà, des pâtes, un peu de fromage blanc et puis essayer de se coucher pas trop tard, mais ça c'était pas facile.
Thomas espère atteindre la ligne d'arrivée en moins de 3 heures pour battre son propre record.
Merci Yasmina Katou en direct donc pour Europe 1 du Marathon de Paris.
Et vous avez bien noté donc les naïcs pour les sucres lents, hein, des pâtes et du fromage blanc. Juste avant le marathon, les Lyonnaises, elles, sont très bien parties pour être une nouvelle fois championne de France de football.
26 000 spectateurs, c'est un record pour de la D1 féminine, ont assisté à la victoire facile de Lyon. 5-0 face au PSG à 3 journées de la fin. Lyon compte 3 points d'avance sur Paris et file droit vers un 13e titre d'affilée. De quoi rendre fier le président lyonnais Jean-Michel Aulas.
Ce sont vraiment de grandes joueuses, mais ce sont aussi des guerrières. On a une équipe qui est agressive, qui a du talent et qui a su réaliser le match parfait aujourd'hui. Donc on est très heureux. Ça peut nous amener à un 13e titre. consécutifs, ce qui marquera évidemment l'histoire, puisqu'on est parti de rien en 2004. Et puis aussi, je dirais, une évolution du foot féminin qui est dans une pleine aspiration sur le plan européen, sur le plan mondial. Eh bien, l'Olympique Lyonnais peut tirer son épingle du jeu et montrer que les idées qu'il défend sont des idées qui sont performantes.
Jean-Michel Aulas avec Pascal Auclair. Ambiance plus morose chez les messieurs après la défaite de Lyon face à Nantes. Bruno Genesio a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison. Et puis le PSG, champion ce soir, c'est possible. Un nul à Lille en clôture de la 32e journée. Et ce sera dans la poche.
Le 1000e Grand Prix de Formule 1 de l'histoire vient de démarrer. Ça se passe à Shanghai.
En première ligne, les Mercedes de Bottas et Hamilton, suivis des deux Ferrari, celles de Vettel et de Charles Leclerc. C'est un jeune monégasque de 21 ans qui force déjà l'admiration de ses aînés, comme celle de Jean-Éric Vergne, ex-pilote de Formule 1.
Le début de saison de Charles Leclerc est absolument incroyable. Il est arrivé en se disant bon, j'allais être le bon petit soldat de Ferrari, et même si au fond de lui il savait qu'il pouvait battre Vettel et qu'il a déjà montré un deux grands prix, ce qu'il a fait est absolument incroyable. Après avoir perdu le Grand Prix de Bahreïn, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement frustrant. Et bon, il est extrêmement jeune, il a je pense la meilleure voiture du plateau. Je pense qu'il est meilleur que Vettel, donc c'est très clairement un gros candidat au titre pour cette année. Et les victoires, il va en avoir plusieurs, c'est une certitude.
Jean-Éric Vergne au micro Europe 1 d'Axel May.
Toulouse-Clermont, bah allez-y.
Belle affiche, très belle affiche. Un choc en top 14, le stadium s'apprête à accueillir 33 000 personnes. La semaine dernière, les Rouges et Noirs ont perdu pour la première fois de la saison. Ils comptent donc se rattraper et s'offrir une répétition générale avant de jouer le Leinster en Coupe d'Europe la semaine prochaine. Écoutez le pilier toulousain Cyril Baye avec Patrick Anselmetti.
Ça s'attend à un très gros match. C'est une des meilleures mêlées du top 14. Et même en touche, ils sont très forts. Donc devant, on s'attend vraiment à un gros match. Voilà, il faut à chaque fois effacer le match du week-end dernier. Là, contre Toulon, c'est vrai qu'on a à cœur aussi de se rattraper. Mais c'est vrai qu'une équipe comme Clermont, voilà, c'est une équipe qui devrait être en Champions Cup. Ils jouent le challenge européen. Et on le voit, ils ont mis 60 points en hors centaine. Donc c'est une grosse équipe. Et c'est sûr qu'ils nous prépareront pour le prochain match du week-end prochain. Mais il faut, voilà, avant de penser à celui-là, il faut d'abord penser à Clairement, parce que ça va taper fort.
Et hier, Grenoble a battu Toulon et a relancé la course au maintien, tout proche de la 12e place désormais occupée par Agen.
Merci beaucoup. Lénaïque Monnier présentait ce journal de 8h. Elle sera là tout à l'heure également pour le journal de 9h. À tout à l'heure.